voix nue. Cette semaine, Zoé Sfez rencontre Alain Touraine. Ce soir, après mai 68, l'ère du doute.
Bonsoir Alain Touraine.
Bonsoir.
Bonsoir, merci, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième épisode d'Avoine.
Moi aussi,
nue.
Parce que c'est le plus important.
C'est le plus important, le troisième. On est au cœur de ces entretiens, oui. Parce qu'hier, nous parlions ensemble de cette période finalement 48-68, période au cours de laquelle, jeune étudiant, vous vous immergez dans le monde du travail, vous allez dans les mines à Valenciennes, puis ensuite vous découvrez votre métier de sociologue et pendant une vingtaine, une trentaine d'années, vous développez des outils pour essayer de comprendre et d'analyser cette société du travail, cette société industrielle finalement. Et là, nous abordons une période finalement plus sombre, c'est cette période qui vient après mai 68, événement qui vous a beaucoup marqué en tant que sociologue, qui vient après aussi la période de décolonisation de la France et finalement qui marque la fin de ces fameuses 30 glorieuses, même si le terme ne vous satisfait pas totalement. Pourquoi est-ce que vous dites que c'est la période la plus importante et aussi peut-être la plus complexe pour vous, personnellement et en tant que sociologue ?
Oh, écoutez, il faut, à l'époque où nous sommes, il faut quand même parler franchement. Parce que j'ai passé toute la deuxième moitié du siècle à réfléchir sur ce qui se passait, à être malheureux, à me sentir à côté de la plaque. Et pas moi, pas seulement la France, mais l'Europe méditerranéenne, la France, l'Italie, l'Espagne. Je suis un peu latin, je fais même partie d'une association qui s'appelle l'Académie de la Latinité, vous voyez, c'est-à-dire... J'ai été très sensible à ces trois pays qui sont les trois pays frères, sœurs, comme vous voulez, ajoutez le Portugal d'ailleurs, qui sont des pays qui n'ont pas réussi la société industrielle. Le XXe siècle, c'est le siècle de l'échec de ces pays. Et alors, la France, l'Italie, l'Espagne, ce sont des pays qui ont vécu avec un siècle de retard. La France n'est jamais sortie, je vais employer le mot qu'il faut employer, qui est le mot officiel de la France. La France est le seul pays où, à la fin d'un discours, le président de la République ne dit pas seulement « Vive la France », il dit avant « Vive la République ». Et c'est le mot qui est capital, car les gens de la fin du XIXe siècle se sont appelés les républicains. Je sais qu'on a eu de la peine à créer la Troisième République, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la classe moyenne, je devrais dire plutôt pré-industriel. La classe moyenne, et y compris populaire, la Commune de Paris, c'est pas des ouvriers. La Commune de Paris, 71, c'est le début de la période républicaine, mais je vous le dirai déjà pour le Printemps des Peuples, 48, c'est pas tellement des ouvriers, c'est des pré-ouvriers. C'est des classes populaires, c'est le mot qui conviendrait. Et Paris est une ville très peu industrielle. L'industrie au XIXe siècle, c'est Roubaix, c'est Mulhouse et c'est le Creusot. C'est-à-dire, tout ça, c'est très loin de Paris. Et dans deux cas sur trois, ce sont des patrons religieux, ce qui est très intéressant. Et je dirais que c'est presque la même chose au Creusot où c'est des francs-maçons. Bon. Donc, si vous voulez, la France, dites-vous ça, ce qui me rend malade. Je le dis honnêtement. La France a à moitié raté la société industrielle. La société industrielle, qu'est-ce que c'est ? C'est des entreprises. Pour qu'il y ait de l'industrie, il faut bien qu'il y ait des entrepreneurs, il faut bien qu'il y ait des chefs d'entreprise. Et un mouvement ouvrier. Et moi, j'ai été jeté dans le mouvement ouvrier par mon tempérament et les événements. Et c'est pour ça que je suis malheureux, car j'aurais voulu que la France soit ouvrière. J'aurais voulu que la France soit mouvement ouvrier. J'aurais voulu que la France soit jaurésienne.
Et elle n'a pas été jaurésienne.
Mais non, elle n'a pas été. Et Jaurès a été assassiné le jour avant la déclaration de guerre de 14. Et le seul moment qui est resté d'ailleurs dans l'inconscient des Français et dans le mien, je dirais le moment un peu magique,
le Front populaire.
Le Front populaire, c'est le seul. Et quand je dis Front populaire, je dis même juin. Mais juin avait été précédé de mai. C'est-à-dire, c'est l'élection de mai qui avait permis la grève générale de juin. Bon, le monde du travail a quand même reçu quelque chose, et ensuite, grâce à la libération, le monde du travail a été beaucoup mieux traité après qu'il n'était, et au point de vue sécurité sociale, et au point de vue conditions de travail, et même revenus.
Mais bon. c'est en ça justement que c'est peut-être un
mais
peu
contre-intuitif. Mais la France n'a jamais choisi l'industrie, jamais. C'est la bourgeoisie révolutionnaire, ou bavarde, ou littéraire, qui s'est emparée du pouvoir. Herriot, normalien, 24. Léon Blum, normalien, 36. Et même, je m'excuse de citer cet homme qui ne mérite pas qu'on se rappelle son nom, l'homme de Munich, Daladier, 38. Et on liquide le Front populaire à toute vitesse. Je dis que les gens qui ont voulu faire une société industrielle qui s'appelle Pierre Mendès-France, Michel Rocard, Jacques Delors, Emmanuel Macron, c'est les mêmes. C'est la même famille.
Ça, on en parlera, mais certains pourraient tout à fait contester qu'Emmanuel Macron soit un héritier direct d'un homme comme Pierre Mendès-France.
Il est un héritier direct, je peux vous le dire, de Michel Rocard. Bon. Mais il y a eu des industrialisateurs, il y en a eu, et de haute qualité. Autant qu'en Allemagne ou qu'en Angleterre. Mais eux, ils ont choisi. Les Allemands, vous savez ce qui est arrivé aux Allemands. Les Allemands ont été occupés en 1945. Ont été occupés par les Anglais. Et les Anglais, c'était le Labour, c'était la gauche travailliste. Et ce sont les Anglais qui ont imposé aux Allemands de faire la fameuse co-gestion. Et ce mot qui est resté gravé dans ma tête et que les Français n'ont jamais appris, ils auraient dû l'apprendre par cœur, qui s'appelle l'économie sociale de marché, c'est-à-dire Sozialmarktwirtschaft.
Bon, avec un rapport très particulier entre eux, à la fois les industriels et les syndicats.
Voulez-vous, exactement, voulez-vous, vous le savez, vous, je vous en félicite, parce que l'Allemagne, cette croupe, vous comprenez, ces gens-là qui passent pour être des nazis et des mangeurs d'ouvriers, mais les Allemands ont fait l'égalité 50-50, 50-50 dans ce qu'on appelle en France les conseils d'administration. Je crois que les Allemands appellent ça les conseils de surveillance. Autrement dit, le monde des barons de l'acier, comme on disait en France, a été un monde qui a fait aux ouvriers une part dans le pouvoir. Pour éviter la révolution, hein, c'était pas de la générosité. Parce qu'en 1945, on risquait d'avoir comme 17-18 la République soviétique de Bavière en 18. Mais les Allemands, ils ont joué le jeu. Ils ont payé cher, ils ont donné une part du pouvoir. Le président de Volkswagen a été un syndicaliste une fois. Impensable en France. Impensable en France. Tout ça, c'est des énarques. Alors, la France n'a jamais voulu faire. Parce que la France était bourgeoise. Elle n'était pas patronale. Elle n'était pas entrepreneuriale. Elle était bourgeoise. Donc, si vous voulez, la France bourgeoise à la Robespierre. Hein. Robespierre, c'est un avocat, c'est un bourgeois. C'est un homme en culotte, c'est pas un homme en pantalon. Bon.
En quoi est-ce que, justement,
mais
rappeler
c'est
ça
que
en
je vous
France
dis. C'est tout Nous à fait avons capital. Essayé pendant tout le siècle d'industrialiser la France. Dites-vous bien que c'est plutôt ce monde pré-industriel que représente la plupart des hommes politiques français, et en particulier, ce n'est vraiment pas parler mal de lui que de le dire, M. Mitterrand. Si vous voulez, qui est un homme d'une culture classique, d'une culture littéraire, qui aime des auteurs provinciaux, Jacques est un homme de la province.
Bon. Vous avez vécu l'élection de François Mitterrand comme un échec. Pourquoi ? Ça pourrait en étonner certains. Vous êtes un homme, Alain Touraine, qui vous êtes tenu relativement à l'écart, à la marge de la politique, tout en ayant quand même tout au long de votre vie, des grandes affinités de Michel Rocard.
Parce que, je le dis, et je le dis honnêtement, j'ai fait partie des gens qui ont perdu, qui étaient les gens qui voulaient moderniser et industrialiser la France. Et je citais hier le nom de mon maître, George Friedman. C'est formidable, ce type qui avait une formation de philosophe, qui a fait un livre sur la Unité Spinoza et qui était passionné par la question juive, qui a fait un livre très beau sur le monde juif et leur rapport à Israël, etc. Bon, cet homme-là, personne ne sait qui c'est aujourd'hui. Parce que les gens qui nous ont remplacés, immédiatement, très vite, 5 ans après, ce sont des gens qui ont parlé d'un Marx philosophe. Les gens qui ont tenu la cote, c'était les marxistes philosophes et les structuralistes, les gens au plus loin du monde moderne.
Alain Touraine, pourquoi, et je reviens là-dessus, ça peut être contre-intuitif, vous vivez en 80 l'élection de Mitterrand comme un échec?
Non, j'ai fait partie du comité d'appui à Mitterrand, vous voyez. Mais cela dit, la France qui a triomphé était comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, la France majoritaire, la France petite bourgeoise, ou petite ouvrière, ou petite paysanne, ou petite provinciale, les gens qui ont fait la Révolution française. La France est restée bloquée dans sa Révolution.
Alain Touraine, vous êtes sociologue, vous vous réclamez de l'hypermodernité, oui. Mais pendant ces années 70, 80, 90, justement, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous cherchez? À ce moment-là, vous soutenez quand même Michel Rocard, et en tant que sociologue, sur quoi est-ce que vous travaillez?
Je suis perdu, je veux dire...
À cette époque-là, vous étiez perdu?
Moi, d'abord, à partir de, disons, de l'écroulement, de l'écroulement, il faut appeler ça comme ça, de Giscard, je me sens mal, et je me renferme sur moi-même pour faire de la méthodologie, inventer une méthode et la pratiquer pendant des années. J'ai consacré 1 an à chacune des 5 études sur une grève étudiante, pas celle de 68, celle de 74 qu'on a oubliée, sur le syndicalisme, sur les antinucléaires, sur les Occitans dans le sud de la France, et puis, ce qui m'a sauvé ma période au point de vue moral, sur Solidarność en Pologne. Et puis donc, je suis parti après en Amérique latine, et ensuite, ma femme est tombée malade. On a décelé sa maladie, qui ne nous laissait aucun espoir, mais les médecins et elle se sont bien battus, et pendant 6 ans, je suis essentiellement, j'ai pas voyagé, et je suis essentiellement resté à l'hôpital, à Curie. Et ensuite, j'étais un peu dingue, pendant 2-3 ans, à errer la nuit dans les rues de Paris, parce que c'était un choc, comme le savent beaucoup de gens. Et voilà. Donc ça fait beaucoup d'années. Ça fait beaucoup d'années. Et quand je me suis réveillé, c'est-à-dire quand j'ai écrit « Critique de la modernité », qui était un effort pour me débarrasser d'une modernité purement technicienne, enfin ce que j'ai toujours détesté, eh bien, je dirais que j'ai erré, je le dis clairement. Quelquefois avec un joli titre, « Pourrons-nous vivre ensemble ?» C'est un beau titre.
Mais pour en revenir à cette période tout de même, j'y reviens, c'est quand même à cette époque-là que vous fondez ce fameux laboratoire qui s'appelle le CADIS, à l'EHESS.
Oui, oui, bien sûr.
Vous faites une vraie recherche quand même sur les mouvements sociaux.
Mais pas une vraie recherche, dès 10.
10
et des
15.
Gens ont fait d'autres recherches. Et cette pensée n'était pas tellement idiote, parce que dans ce tout petit groupe, il y a eu de très bons, de grands chercheurs. Et je voudrais en citer seulement 2, qui n'étaient pas les plus près de moi. Les plus près de moi, c'était Michel Vivorca et François Dubay. Il y a eu un Espagnol devenu américain, Manuel Castells, et qui est un type formidable et qui est devenu un grand sociologue célèbre mondialement, célébré par tout le monde et à juste titre, et un homme que je mets, je dirais, au même titre, car qu'est-ce qui nous a bouleversé les 5 dernières années ou les 10 dernières années, c'est quand même les attentats, c'est quand même le djihad islamique et la difficulté de comprendre ce phénomène. Or, il y a eu des tas de gens qui ont étudié ce phénomène, et je m'y suis beaucoup intéressé, mais l'homme qui a compris, l'homme qui a écrit les textes fondamentaux, c'est un homme du CADIS, qui s'appelle Farhad Khosrokavar, qui est iranien, citoyen français, et qui a écrit des livres d'une intelligence pour arriver à comprendre un mouvement social qui est d'un côté économico-social parce que les gens se sentaient maltraités en France, mais qui est quand même d'abord religieux. Bon, Farag Tosokawa est un grand sociologue qui a quand même été le directeur du CADIS aussi.
Il y a ce laboratoire du CADIS. Qu'est-ce que vous en retenez, vous, des concepts? Vous le dites, vous êtes perdu, vous travaillez sur cette théorie des mouvements sociaux. Et puis, vous avez quand même un moment où vous vous rapprochez, c'est probablement le moment où vous êtes le plus engagé, on va dire politiquement, parce que souvent, on vous a vu, Alain Touraine, comme un sociologue qui effectivement reste en retraite, puis vous vous engagez quand même aux côtés de Michel Rocard. Il y a quand même un moment donné où vous vous rapprochez de ce mouvement-là.
Mais c'est quand il était Premier ministre. Avant, il y avait un comité, et ensuite nous nous réunissions toutes les semaines dans le bureau de Michel Rocard à Matignon.
Qu'est-ce que ça donne, cette période-là? Pourquoi vous êtes rapproché d'un homme comme Michel Rocard?
Nous savons tous ce qu'il en est, et pas besoin de revenir en arrière, et il n'y a aucun mystère. Mitterrand a gagné. Les Français ont voté pour Mitterrand, les socialistes ont voté pour Mitterrand et pas pour Rocard, et je pense qu'ils n'auraient jamais voté pour Rocard. Ils ont voté pour Mitterrand en pleine connaissance de cause et en pleine volonté, et ils continuent dans leur tête à voter pour Mitterrand, et ils ont bien le droit. Si vous voulez, Mitterrand a été obligé de donner un petit sucre. C'est le Premier ministre tenu sous contrôle et le Parti Socialiste a été parfaitement clair. Le Parti Socialiste a éliminé Rocard et après Rocard, c'était immédiatement la chute.
Je peux revenir un tout petit peu là-dessus. Vous vous dites que vous êtes profondément anti-révolutionnaire finalement. C'est ça que vous dites?
Moi j'accepterais qu'on dise ça parce qu'il faut choisir. Ou on fabrique une société du travail et une société appelée socialiste, mais socialiste, ça fait URSS. Mais ça, c'est Lénine. Je suis anti-léniniste. Oui, je suis, je le répète, anti-léniniste. Et si vous voulez que j'aggrave mon cas encore, je suis anti-maoïste. Bon, d'accord. Moi, je suis ce qu'on appelle les petits cons, un démocrate. Je suis un petit con. Je suis un démocrate. Je suis même, appelez ça si vous voulez, aggraver encore mon cas, un social-démocrate, comme l'ont été Mendès France. Je voudrais dire un mot de quelqu'un dont on ne parle plus jamais et qui a voulu qu'on ne parle plus de lui, qui est Delors. Car Jacques Delors a parfaitement compris tout ça et il a dit « Je ne me présenterai pas à la présidence de la République après la disparition de Mitterrand ». Et il a fait quoi? Il a fait ce qu'il pensait être, ce qui était... Il a créé l'Europe. Et il a disparu. Lui aussi, il fait partie. Il est dans la politique de l'or, ce que je suis, si vous voulez, dans la vie intellectuelle. C'est celui qui a parlé, à mon avis, le plus honnêtement et le plus profondément de la société réelle qu'il fallait faire. Mais la France a décidé de ne pas la faire. Et elle continue à le décider, d'ailleurs.
À cette période-là, il y a quand même eu un moment important dans votre vie qui a été Solidarnosc en 89.
Solidarnosc, il y avait tout. Solidarnosc, c'était un syndicat. Les étudiants ne pouvaient pas être membres de Solidarnosc. Ils n'étaient pas des travailleurs. Deuxièmement, c'était un mouvement national. La Pologne se soulevait contre l'occupation soviétique. Et troisièmement, c'était un mouvement démocratique. Le patriotisme polonais, il est entièrement présent dans Solidarność, comme il était présent dans l'insurrection de Varsovie et dans tout ce que la Pologne a souffert de drames et de morts. Mais c'est aussi ce patriotisme qui s'est renversé, comme l'Église catholique s'est renversée pour devenir réactionnaire, nationaliste, xénophobe et tout ce qu'on voudra. Mais c'est... On n'est pas les seuls, tout le monde est à cheval entre le bien et le mal. Et la France est un pays qui a été beaucoup dans le bien et un peu dans le mal.
Alain Touraine, à ce moment-là quand même de votre vie, cette période de la fin pour vous de la société industrielle et où vous ne comprenez pas encore ce concept de modernité, est-ce qu'il y a des gens, même si vous l'avez dit, vous vous considérez comme un perdant, est-ce qu'il y a d'autres intellectuels qui quand même... vous ont intéressé et continuent aujourd'hui de vous intéresser? Parce que vous n'êtes pas seul complètement à l'époque. Il y a quand même une vie intellectuelle foisonnante à l'époque.
oui et non. À l'époque, c'est très simple. Il faut être très clair en histoire. Il y a un homme qui a joué un rôle extrêmement positif et qui a été un de mes grands amis. C'est François Furet. Et François Furet, qui n'était pas du tout un homme de droite, comme on s'amuse à le raconter aujourd'hui, plaisanterie. C'est un homme qui avait mouvement ouvrier, société industrielle, la gauche américaine, si vous voulez. Mais en même temps, il a compris qu'il fallait en finir avec l'idée communiste, l'idée léniniste. Et il a écrit des livres sur la Révolution française et un livre sur le communisme qui font de lui un des grands historiens du XXe siècle. Et ensuite, ce sont les libéraux de gauche, appelons ça comme ça, qui sont arrivés au pouvoir intellectuel, des gens que j'estime des gens de qualité, je veux dire Rosan Vallon, Gauchet, des gens comme ça. Voilà. Et qui fait que la France moderne est une France aujourd'hui qui est 40% de la France, et donc qui est minoritaire. Monsieur Macron le sait bien.
On en parlera, mais cette France moderne dont vous estimez qu'elle n'est qu'à 40% moderne, c'est qui les 60% restants? Est-ce que ce n'est pas justement ces ouvriers sur lesquels vous avez tant travaillé?
Non, ces ouvriers, ils ont disparu, et la France industrielle est devenue le Front National. Et la banlieue ouvrière communiste parisienne est devenue Mélenchon. Bon, ça c'est la liquidation du mouvement et des partis ouvriers français. La France n'est plus, dans 20 ans, la France ne sera plus du tout un pays industriel. Mais l'Angleterre non plus, l'Allemagne non plus. L'Allemagne industrielle est en train de mourir.
Et Alain Touraine, vous le dites dans votre livre, Défense de la modernité, vous ouvrez...
Je défends la modernité.
Vous défendez la modernité, mais la modernité, est-ce qu'elle va nécessairement avec l'industrie? Ou est-ce que justement,
mais non,
c'est un petit peu ce que
mais
vous dites?
Nom d'un chien, la modernité n'a pas toujours été industrielle, et la modernité du XVIIe, le grand siècle français, c'est le XVIIe, n'est-ce pas? C'est Louis XIV. Elias, Norbert Elias, le grand sociologue allemand, l'a admirablement dit, et la monarchie absolue, c'est là, et c'est Descartes, le siècle de Descartes. La modernité, elle connaît la France, elle l'a fabriquée plus que n'importe quel autre pays. Liberté, égalité française, c'est des mots français, que je sache. Bon, ce que je dis est que la modernité qui a été rationaliste, puis qui a été industrielle, 19e, 20e siècle, demain, elle sera féminine et multiculturelle.
Je vous pose une dernière question, Alain Touraine. Pour en revenir à ces questions des figures intellectuelles, je suis obligée de vous la poser. Il y a eu évidemment des sociologues et des penseurs qui ont compté, avec lesquels vous avez été plutôt en opposition. Je parle par exemple de Pierre Bourdieu ou de Michel Foucault. Comment est-ce que vous regardez leurs pensées aujourd'hui?
Écoutez, vous mentionnez ces deux noms et vous avez raison. Bourdieu a été le contraire de moi, mais je vais vous dire ce que ça veut dire, le contraire de moi. Bourdieu a été l'homme qui a dit « Il n'y a pas de mouvements sociaux, il y a de la domination et de l'écrasement. Il y a de la misère. » Son livre le plus intéressant et le plus noble, c'est son livre collectif, mais surtout de lui, sur la misère. Et son idée, c'est celle-là. Il y a la reproduction, disons, la domination est complète, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. On se fout en l'air ou on fait la révolution. Et en 95, rappelez-vous, c'est le moment le plus bas pour moi de mon existence, 95, qui est une grève formidable. Et c'est une grève où des gens comme Bourdieu et comme les cheminots de la gare de Lyon ont voulu foutre en l'air le secrétaire général de la CGT, membre du Parti communiste. Je ne vais pas dire que c'est un réac quand même. Ils ont voulu le foutre en l'air et faire la révolution. Et les amis de Bourdieu se sont emparés d'un des hauts lieux du capitalisme financier international, l'École normale supérieure. Ça a duré une heure, tout le temps que la police les fasse descendre des toits. Voilà.
Comment vous avez regardé ça?
Avec rage. Avec rage, parce que je pense que la France a sacrifié, a maltraité son monde ouvrier. Mais si en France on avait traité le monde ouvrier comme on a traité les entreprises publiques, je dis, vous ne pouvez pas faire une France moderne sans le monde ouvrier. Même encore aujourd'hui. Dans 50 ans, ça sera trop tard, mais même encore aujourd'hui. Bon, alors je veux dire ceci, je ne crois pas que dans cette période où nous sommes, qui est la période de chute du monde industriel, un peu plus tôt, un peu plus tard, mais on est tous morts, eh bien je ne pense pas qu'il y ait de vie intellectuelle très grandiose. Alors, je voudrais, puisque vous m'avez cité son nom, que je respecte beaucoup. Je n'ai pas été du tout de ses intimes.
Michel Foucault.
Moi, je vais vous dire, je n'ai pas du tout aimé le Foucault qu'on appelle structuraliste. Le livre qui a rendu Foucault célèbre, Les mots et les choses, c'est celui-là qui l'a rendu célèbre. Et le livre que les gens ont adoré, c'est Surveiller et punir. Bon.
Vous l'appelez Foucault 1 et c'est pas lui qui vous intéresse.
Je l'appelle Foucault
dans votre livre,
Défense
de la modernité.
Foucault, qui était parti du structuralisme, c'est-à-dire en effet de cette idée du système qui étouffe tout, qui casse tout.
Et ce qui vous intéresse chez Foucault 2, c'est que vous dites qu'il remet le thème du sujet au centre alors qu'il a été complètement oublié pendant plus de 100 ans à ce moment-là.
Absolument. Absolument. Les conférences de Berkeley, il se trouve que le hasard a fait que j'étais prof à Berkeley à un moment, une des fois où il est venu, mais Berkeley qui a eu un succès que vous n'imaginez pas. Tous les physiciens, mathématiciens et chimistes de l'Université de Californie sont venus écouter, s'enthousiasmer, et avec raison, pour Foucault 2 qui était génial, qui était là. Rappelez-vous ce qu'il a dit. Il disait, il faut se débarrasser de cette phrase de Socrate, qui est « connais-toi toi-même ». Il faut remplacer « connais-toi toi-même », en grec ça se dit « gnotis eoton », par « avoir la conscience, et il emploie un mot d'ailleurs assez étrange, le souci. Et en grec, le souci, ça se dit épiméléia. Eh bien, épiméléia, c'est au tout. Pas gnotis, c'est automne, mais épiméléia, c'est au tout.
Et le souci de toi-même.
Et le souci et la conscience de soi-même, et le gouvernement, pas au sens de s'imposer des interdits. Foucault n'était pas tellement du genre interdit, que je sache. Mais,
a priori, non.
Non, mais enfin, quand même, c'est des choses magnifiques. Et probablement, il n'aimerait pas, mais c'est lui qui a mis dans mon vocabulaire le mot « subjectivation ».
Mais d'ailleurs, le thème du sujet sera un thème central de la sociologie que vous allez développer ensuite. On se retrouve demain, Alain Touraine, pour parler d'Amérique latine. À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Zoé Sfez avec Alain Touraine. À voix nue, réalisation Véronique Lamandour, prise de son François Rivalan, Romain Luquiens, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.